entendre le monde sans jamais oublier d'en rire. C'est la devise de Mathieu Noël chaque après-midi sur Europe 1. Vous écoutez les meilleurs moments de cette équipe sauvage en compagnie de nos journalistes compétiteurs pour cette grande battle de chronique. Eva Rock, la grande complice de Mathieu Noël, est là aussi. Et puis durant l'heure à venir, eh bien, sachez que Ève Roger nous dévoilera les astuces des célibataires confinés. Jean-Philippe Ballas évoquera les relations quasi intimes qu'entretiennent les musiciens avec leurs instruments. Nicolas Caro nous parlera de ces écrivains qui écrivent comme ils parlent, entre autres choses. Et on va commencer tout de suite par prendre des nouvelles d'un comédien féru d'histoire. C'était ce jeudi sur Europe 1.
C'est notre kiff du confinement. Chaque après-midi, à défaut de pouvoir les accueillir en studio, on passe un petit coup de fil aux personnalités qu'on aime. Aujourd'hui, un comédien féru d'histoire qui nous régale à chaque fois. Il nous avait rendu visite en mars dernier, et alors qu'à l'issue de l'émission, je le remerciais d'avoir tout donné pour le show, il avait eu cette réflexion qu'Eva n'oubliera jamais.
Et encore, tu m'as pas vu tout nu. Je vais te montrer.
Bonjour Laurent Deutsch.
Bonjour.
C'était le bon temps, on pouvait encore se montrer des choses en studio à moins d'un mètre de distance. Comment se passe le confinement, Laurent? On vous connaît un peu, on connaît votre énergie, on sait aussi votre goût pour la balade, la flânerie. Là, ça doit être un peu, ça doit être terrible pour vous, ce confinement.
Ben, je pense que ça l'est pour tous, quoi. On attend. Moi, j'ai la chance d'avoir déménagé l'année dernière. J'habite dans les bois, donc je suis à l'air libre, mais j'ai quand même la sensation de vivre un exil intérieur. Je suis confiné en famille, voilà. Je les connais par cœur. J'ai baptisé tous mes chênes, tous mes arbres. J'ai une énorme famille, quoi. Mais il est temps que je me déconfine parce que je les ai tous adoptés. Ça me coûte un pognon fou.
Alors ce soir, on va un peu se déconfiner sur France 2 grâce à vous, par la pensée en tout cas, puisque vous présentez avec Stéphane Bern une émission sur le Paris du baron Haussmann, les travaux d'Haussmann à l'époque. Donc ça va nous déconfiner. C'est à 21h sur France 2, si je ne m'abuse.
Exactement. C'est des idées qu'on vous donne pour vous tous, comme moi-même, vous avez des fourmis dans les pattes. Et bien, ouais. Dès qu'on va pouvoir sortir, il va y avoir des choses à voir. Et c'est ce qu'on vous propose en avant-propos et en avant-première ce soir avec Stéphane.
Europe 1, l'équipe est sauvage.
Ça fait un mois et demi maintenant qu'on est confiné, mais plus de 2 mois que Laurent Deutsch ne dort plus. 2 mois qu'il est resté bloqué sur l'énigme qui nous agitait lors de notre dernière émission ensemble.
Ah, c'est vrai, ah, c'est vrai.
Tous les mots français qui finissent par E-T-T-E sont féminins, vrai ou faux?
Faux.
Branlette, quéquette, ah bah non.
Une émission de qualité, un questionnement de haut niveau. Laurent Deutsch, on est heureux de vous avoir avec nous cet après-midi. On vous avait reçu en studio en mars dernier pour votre livre et votre spectacle romanesque dans lequel vous reveniez notamment sur la fabuleuse histoire de la langue française. Vous deviez être sur scène d'ailleurs jusqu'à fin juin. Vous savez déjà si vous allez reprendre plus tard?
Non,
vous savez,
non, on sait
si
pas.
C'est annulé, reporté?
Non, on sait pas. Ouais, on est dans le flou, dans un flou total, comme beaucoup de monde pour tout. Et nous aussi, on sait pas si ça repart, on sait pas quand ça repart. C'est vrai que moi, je jouais dans une salle de 500 personnes, donc ça fait un rassemblement sans doute un peu trop risqué. Donc, à mon avis, c'est pas pour tout de suite.
Laurent, sur les chaînes info en ce moment, partout d'ailleurs, on a des spécialistes et tout le monde qui commente, beaucoup de gens qui essaient de se souvenir un événement aussi marquant dans leur histoire, dans l'histoire de notre pays que ce qu'on est en train de vivre. Est-ce que vous, en tant que passionné d'histoire, vous avez un peu plus de recul? Est-ce que c'est vraiment quelque chose? On a entendu des comparaisons avec la peste et même le choléra. Est-ce qu'on peut parler d'un événement de cette ampleur historique ou il faut relativiser?
Non, je sais pas. Puis en plus, moi, je vais vous dire un truc tout simple, c'est que j'aime l'histoire quand elle est divertissante, quand elle est amusante, quand on peut tous en profiter. Et là, comme tout le monde, ça m'amuse pas du tout. Donc, j'ai même pas envie de comparer avec des événements historiques qui me fascinent quand je les lis à travers Dumas, Balzac, Victor Hugo. C'est sûr que la peste de Marseille de 1720, elle est fascinante quand elle est loin de nous. Et là, voilà, j'ai pas envie de, j'ai même pas le désir et le goût de faire des rapprochements avec l'histoire parce que cette matière historique, moi, me permet de m'évader. Alors que ce coronavirus m'emprisonne, quoi. Donc c'est totalement antinomique avec la manière dont moi j'aborde l'histoire, de manière heureuse, joyeuse, gaie, divertissante. Là c'est chiant, quoi. Il y en a marre.
Effectivement. Vous, c'est l'histoire ludique.
On en a quand même marre de regarder des séries et de faire des gâteaux, quoi. Ça suffit. J'ai pris 10 kilos, moi.
C'est vrai qu'on n'en peut plus.
Attends, j'ai pas vu la gueule d'un terrain de foot.
Bouffées,
ce qui m'inquiète, c'est que je saurais même pas reconnaître un terrain de foot, quoi. J'en peux plus.
Europe 1, 16h, 18h. L'équipe est sauvage.
Écoutez, l'équipée sauvage confinée, 2 heures en duplex de mon canapé pour oublier qu'on est encore coincé jusqu'au 11 mai minimum. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut toujours s'évader par l'esprit, notamment grâce à notre invité en ligne avec nous cet après-midi et que vous allez retrouver ce soir sur France 2, un comédien mais aussi un grand curieux qui partage avec moi une passion pour l'histoire et même, comme j'ai pu le constater la dernière fois, pour la préhistoire.
Des ours à lunettes, des araignées sauteuses ou encore le dernier dinosaure qui existe sur
Denver.
Terre.
Denver,
le dernier dinosaure, c'est mon ami. esprit et bien plus encore.
Il y a ce dicton qui dit que les grands esprits se rencontrent. Oh là là. On en a là, je crois, l'irréfutable démonstration. Laurent Deutsch est avec nous cet après-midi. Un Laurent Deutsch qui trépigne. Hein. Il est dans les starting blocks. Je pense qu'au moment du le 11 mai, à mon avis, à 7h du matin, vous serez sur la route.
Ouais, moi, il y a deux idées. Hein. Dans ma tête, en ce moment, il y a deux possibilités. Soit on accélère et on se retrouve tout de suite le 11 mai avec un accélérateur de particules. Ils n'ont pas su nous amener des masques, mais ils peuvent peut-être créer un téléporteur ou un truc pour voyager dans le temps. Ou alors on recommence 2020. Quoi. Je veux dire, on recommence. Il y a un bug, il y a un virus, on recommence 2020, s'il vous plaît.
Et Laurent, ce soir, en attendant le déconfinement, en attendant qu'on puisse tous se dégourdir les jambes, on va pouvoir se dégourdir les neurones et l'esprit devant France 2 et ce programme sur les traces du baron Haussmann, le Paris du baron Haussmann. Vous vous baladez dans Paris avec Stéphane Bern. Et dans cette soirée, on apprend aussi des petites anecdotes qui sont assez marrantes. Moi, personnellement, j'ai découvert deux choses que je ne savais pas, notamment pourquoi la couleur rouge est si présente dans les théâtres parisiens.
Ah, c'est génial, cette histoire.
Alors, ce qui est curieux, c'est que moi, j'ai appris l'inverse. Après, à l'école, on m'a toujours enseigné, on m'a toujours dit que le rouge était une couleur stressante, angoissante. Oui. C'est pourquoi les chambres sont rarement en rouge, parce que c'est une couleur qui énerve. Vous n'avez qu'à penser au taureau. Surtout, je ne vous raconte pas un taureau confiné, vous le mettez dans une chambre rouge, il défonce tout. Mais pour le théâtre, l'architecte Garnier a pensé que le rouge était une couleur qui allait bien aux femmes. Et donc, il a habillé son théâtre de couleur rouge parce qu'évidemment, quand on allait à l'opéra, c'était un lieu de représentation. Donc, les femmes entraient toutes bien habillées et elles étaient dans ce décor, dans ce rouge merveilleux qui les encadrait très bien.
Voilà donc pourquoi les sièges sont rouges dans les théâtres et l'opéra, c'est fou. Et alors, pourquoi on dit, c'est incroyable, pourquoi on dit merde pour souhaiter bonne chance à quelqu'un? Moi, c'est une question que je me suis souvent posée, je trouve pas ça très élégant, mais je le fais, je m'y plie, c'est la règle. Mais pourquoi? D'où ça vient?
Ça vient des théâtres et ça vient de Paris en particulier. C'était les comédiens de la Comédie française quand ils étaient installés du côté de l'Odéon. Donc on est à la fin du XVIIIe siècle. Et évidemment, à cette époque, on allait au théâtre ou à pied ou à cheval ou en carrosse. Et plus il y avait d'affluence, donc plus il y avait de chevaux, donc plus il y avait de crottins de cheval. Donc les comédiens regardaient par la fenêtre de leur loge et s'il y avait beaucoup de crottins dans la rue, ça voulait dire qu'il y avait des spectateurs. Donc on souhaitait merde parce qu'on souhaitait évidemment du monde, de la réussite et des spectateurs.
C'était le médiamétrie de l'époque, en fait.
Exactement. Ouais, mais rien n'a changé.
Dans ce documentaire, on réalise l'ampleur des travaux à l'époque. On râle souvent, on entend souvent des gens râler contre Anne Hidalgo parce qu'il y a des travaux dans Paris en ce moment. À l'époque, les travaux du baron Haussmann, ça devait être quelque chose de... Les gens râlaient, j'imagine, à l'époque.
Oui, enfin, ils n'avaient pas trop le choix. Hein, parce que vraiment... Haussmann était le préfet. Hein, il était préfet, il n'était pas que architecte. Donc, il y avait des expropriations massives. Il y a eu des drames. On peut pas nier que Haussmann a chassé des gens à la périphérie. Hein, il a créé ce qu'on a appelé la zone, les zonards, tous ceux qui n'avaient pas les moyens de vivre dans le centre se sont retrouvés dans les bordures, plus ou moins volontairement, et ça a été des moments très éprouvants, les travaux ont été dingues, mais au final, il faut reconnaître que Haussmann a eu une vision, Napoléon III a une vision pour Paris, puisqu'il a préparé Paris au défi de l'avenir, et encore aujourd'hui, en 2020, Paris sait faire face, quoi. Donc c'est assez incroyable, et voilà, 170 ans après, nous qui n'avons pas vécu le confinement, les travaux et l'enfer d'Haussmann, on ne peut que s'en réjouir.
Justement, ça me fait penser, quelle est votre position par rapport au Grand Paris, Laurent Deutsch? C'est un projet qui vous séduit, qui vous fait peur?
Ah bah oui, je trouve ça assez agréable de se dire que dans une période où justement on a la sensation que tout se referme, tout se contracte, il y a des Anglais qui s'en vont, on parle de plus en plus des frontières, des choses comme ça, je suis heureux de me dire que paradoxalement Paris, elle, fait sa mue, elle s'ouvre et elle fait sauter ses barrières. Paris se conçoit non pas comme une ville frontière, mais une ville fluide qui va agrandir ses espaces et dont les limites ne seront plus, comme ça l'a toujours été, une enceinte, jusque dans les années 60, mais avec donc cette espèce de grande ligne de métro, plus ou moins aérienne. Enfin, j'avais vu des projets dingues, notamment ceux de Ports en Parc, qui nous montraient comment définir, délimiter les contours de ce grand Paris qui va avaler sa banlieue avec un train comme ça, où on en fait le tour comme un chemin de ronde, mais ouvert et qui permet la circulation et la communication, et non pas qui ferme et qui rend, comme dirait Victor Hugo, un murmurant Paris qui rend Paris murmurant.
Oh, c'est bon.
Wow. Ouais. Terminé sur une station du Louvre, ça vous fait rêver.
J'ai 2 mois. Je bats des records. J'ai lu Guerre et Paix, Tolstoï en 3 jours. Je vous défie d'en faire autant.
Mais vous avez quand même 3 enfants à proximité de vous, là, non? Pendant ce confinement.
Oui. Alors, si on peut, alors je fais un message personnel, je suis très content qu'on applaudisse les soignants, tous ceux qui prennent des risques, les médecins qui nous sauvent la vie et qui nous permettent de sortir, j'espère, le plus tôt possible de cet enfer, à 8h, donc on les applaudit avec nos casseroles. Mais si à 8h03, on peut applaudir les professeurs et les enseignants qui s'occupent de nos enfants tout au long de l'année, parce que c'est costaud quand même. Hein. Moi, 3 enfants, j'avoue que ça ne me laisse pas le temps pour autre chose. Je suis totalement sec, j'arrive pas à me mettre dans des projets parce que je suis avec eux. Après, c'est formidable parce qu'ils sont, ils sont très chouettes et on est privilégiés de les voir travailler. Moi, je les vois apprendre et dans une situation auquel j'ai pas le droit. Hein, on n'a pas accès aux salles de classe. Mm-hmm. Là, on les voit progresser, on les voit apprendre, on les voit se prendre la tête. Donc, j'en ai 3. Moi, j'ai toutes les tailles. Hein. J'ai 6 ans, 8 ans et 9 ans. Et je trouve ça, là, par contre, c'est un moment assez béni et de les voir avancer, de les voir progresser, d'apprendre leur table de multiplication, d'apprendre le français et tout. Ça, j'adore. C'est le bon côté de ce côté-là du confinement, d'avoir pu faire la classe à mes enfants avec le professeur.
Mais j'imagine que pour vous, c'est aussi un plaisir, Laurent Deutsch. Vous aimez tellement transmettre la culture, l'histoire, être prof d'histoire de vos enfants. À mon avis, ça ne doit pas être trop dur pour vous. Déjà, vous connaissez tout de mémoire.
Ouais, puis en plus, alors là, le programme me plaît bien, surtout pour ma grande qui est en CM1, elle étudie les grands explorateurs, les grands navigateurs, donc elle étudie Christophe Colomb, Cartier, Magellan, Vasco de Gama, et donc on voyage, et du coup, on a des têtards, et les têtards ont des noms d'explorateurs, et c'est au premier qui va faire sa mue, et qui va sortir de la cuvette. Donc non, oui, c'est des périodes qui me plaisent bien, là, en CM1, là, on voyage, et c'est déjà un petit peu un déconfinement de faire l'histoire avec elle.
Merci pour votre enthousiasme, Laurent Deutsch. On a hâte de vous retrouver déconfiné en studio. Il vous donne rendez-vous ce soir sur France 2 à 21h pour la folle aventure du Paris haussmannien. Merci d'avoir été avec nous cet après-midi, Laurent.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1.
Des écrivains qui écrivent comme on parle. Détails et explications avec Nicolas Carrossé dans l'équipe est sauvage, emmené par Mathieu Noël. Mais en attendant, voici Cyril Moquèche sur Europe 1.
Comme le printemps passe à l'as, comme la peur refait surface, je suis venu, j'ai vu, j'ai perdu, comme le grand monde à Tari, la claire fontaine, l'eau du puits, je suis venu, j'ai vu, j'ai tout bu, si j'avais su, qu'il me manquerait. Le jour d'après, le jour d'après, comme un drapeau noir de flammes planté sur les plus vieilles âmes, je suis venu, j'ai pas cru, tout s'éclate à la fenêtre, comme autant de lettres ouvertes, je suis venu, j'ai vu sur la rue, si j'avais su, qu'il me manquerait. Comme la peur aussi se lasse, je suis venu, j'ai vu, j'ai tenu, comme le grand monde est petit, sans Rome, Vienne ou Paris, je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu, si j'avais su, qu'il reviendrait.
Ce confinement semble être très inspirant pour les artistes, à l'image de Cyril Mokaesh, qui était déjà de retour en début d'année avec son album Paris-Beyrouth, hein, écrit entre la France et le Liban, et vient de nous dévoiler un titre inédit, Confiné, le jour d'après, que l'on vient d'écouter à l'instant sur Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, l'équipée sauvage.
Notre petite compilation du week-end se poursuit, hein, c'est notre séance de rattrapage pour vous qui n'avez pas encore eu le temps d'écouter les replays ou les podcasts. Nous sommes avec Mathieu Noël, son acolyte Eva Rock, et à présent avec notre expert en littérature, Nicolas Caro.
Écoutez, l'équipée sauvage, 2 heures pour graisser vos neurones tout en dégrippant vos zygomatiques à l'huile de coude de notre bonne humeur. La grande battle des journalistes d'Europe 1 au service de votre culture G continue avec l'entrée en piste d'un garçon qui a tout pour lui. Beau, cultivé, sympathique, Nicolas Caro, notre expert littérature, est en outre un amant formidable, limite perfectionniste, comme en témoigne ce commentaire samedi soir après qu'il a fait l'amour à sa femme.
Ah non, c'était super. On a fait une 30 de trop, on va nettoyer un peu.
C'est transparent dans chaque domaine de la vie.
Oh là là,
et votre
Nicolas.
Domaine de prédilection, Nicolas, plus encore que les étreintes fougueuses sous couette, c'est évidemment la littérature. Et vous avez choisi de nous parler aujourd'hui de ces auteurs qui ont recours au style parlé.
Ben oui, c'est presque un genre en soi. La semaine dernière, on a évoqué brièvement l'orthographe. Vous sous-entendiez que les écrivains connaissaient forcément bien la syntaxe, la grammaire et la conjugaison. C'est pas faux.
J'ai remarqué ça chez vous, Nicolas, c'est-à-dire que vous choisissez vos sujets en fonction des conneries que j'ai dites dans l'émission d'avant. Vous rebondissez, vous prenez une connerie, vous la mettez en lumière et ensuite vous humiliez à l'antenne.
Mais non, c'est pas. Non, au contraire.
Ça m'évite d'avoir à chercher un sujet.
Non, mais au contraire, c'est qu'il vous rend hommage. Il rend hommage au patron de l'émission.
On peut le voir comme ça, Eva. Voilà, on peut le voir comme ça. Pardon. Voilà. Alors, allez-y.
Alors donc c'est pas faux, ils connaissent bien la syntaxe, la grammaire et la conjugaison, parce qu'un bon écrivain c'est forcément un grand lecteur, et donc indirectement il travaille son orthographe et sa syntaxe, parce que la plupart des romans sont écrits ou traduits en bon français, mais pas toujours, c'est même de moins en moins le cas, et c'est tant mieux.
Tant mieux pourquoi ? Pour le style ?
Exactement, il y a un style très direct, hyper réaliste, qui consiste à écrire comme on parle. Par exemple, beaucoup de gens écrivent « cela ». Alors qu'en parlant, ils auraient dit ça.
Oui, c'est
l'usage lorsqu'on passe de l'oral à l'écrit.
Oui.
Et certains écrivains forcent le trait et écrivent comme on parlerait. Donc Céline, par exemple, dans Voyage au bout de la nuit, débute son roman par ces mots. Ça a débuté comme ça. Moi, j'avais jamais rien dit. Rien. C'est Arthur Ganat qui m'a fait parler. Arthur, un étudiant à Carabin, lui aussi, un camarade. On se rencontre donc place Clichy. C'était après le déjeuner. Il veut me parler. Je l'écoute. Restons pas dehors, qu'il me dit. Rentrons.
Oui, forcément.
C'est comme la différence entre un bon et un mauvais comédien. Les négations ne sont pas trop prononcées.
Et voilà, exactement. Je vous le relis, mais j'ai modifié le texte en version plus académique. Ah. Ça fait « Cela a débuté comme cela. Moi, je n'avais jamais rien dit. Rien. » Et à la fin du paragraphe, « Il veut me parler. Je l'écoute. Ne restons pas dehors, me dit-il. Rentrons. » Voilà, ça donne pas du tout la même énergie. Autre exemple, vous allez encore me dire que je vous en parle trop, mais prenez l'attrape-cœur de Salinger. Écoutez ce passage. « Si vous voulez vraiment que je vous dise, alors sûrement la première chose que vous allez demander, c'est où je suis né et à quoi ça ressemblait ma saloperie d'enfance et ce que faisaient mes parents avant de m'avoir. Et toutes ces conneries à la David Copperfield, mais j'ai pas envie de raconter ça et tout. » Franchement, si vous écrivez comme ça votre dissertation de français, vous aurez une mauvaise note, à moins que ce soit fait exprès et que le prof comprenne où vous avez voulu en venir. Mais pour l'attrape-cœur, ça ne peut pas être écrit autrement. C'est un ado qui parle, un ado en rébellion.
Oui, mais c'est ce que j'allais vous dire. Voilà. En fait, là, les exemples que vous prenez, c'est bien les personnages qui sont en train de parler. C'est-à-dire que le langage...
C'est jamais le narrateur qui s'exprime comme ça.
Oui, parce que si c'était vraiment le récit en tant que tel... C'était un peu plus gênant.
Et au-delà de ça, il faut bien connaître la grammaire pour traiter comme ça. Je veux dire, c'est pas facile d'écrire en style parlé. C'est un art aussi.
Exactement. Vous avez déjà vu un dessin figuratif de Picasso. Il savait dessiner à la perfection avec tous les détails réalistes. Mais c'est par cette maîtrise qu'il a pu ensuite tout déconstruire pour créer ses formes étranges. C'est pareil pour les écrivains. Il faut d'abord bien maîtriser le langage pour ensuite le tordre dans tous les sens pour lui donner la forme qu'on veut.
Voilà, donc un cancre en orthographe ne fera pas forcément un bon écrivain et qui écrit comme on parle. Merci Nicolas d'avoir mis les points sur les i, comme on dit. Voilà, Eva, le langage parlé qui peut donc être extrêmement intéressant quand même dans la littérature.
Ça vaut aussi pour les sextos.
Oui, merci pour ce complément d'information.
Bien sûr.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage. L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h.
Une équipe est sauvage emmenée par Mathieu Noël avec Eva Rock, qui pense aux enfants cette période de confinement. Aujourd'hui, un film d'animation à partir de 7 ans sur Netflix. Et puis un dessin animé gratuit sur France Télé.
Un enfant qui vous dit « je t'aime », c'est merveilleux. Mais un enfant avec lequel vous êtes confiné, qui vous crie « je t'aime » 20 fois par jour juste pour tester vos limites. C'est ennuyeux. Contre cette conséquence collatérale du Covid-19 que constitue la présence permanente des enfants dans nos pattes, Eva Rock nous propose chaque jour une solution drastique mais diablement efficace, les placer dès leur plus jeune âge devant un écran. C'est abrutissant peut-être, mais au moins ça vous laisse un peu de temps pour télétravailler, n'est-ce pas Eva?
Oui, mais pas les plus petits, hein, pas les tout petits quand même.
Et surtout pas Winnie l'ourson, on l'a entendu tout à l'heure.
Winnie l'ourson, de toute façon même voilà, Winnie l'ourson on oublie. Je vous propose de commencer avec un film d'animation pour les enfants à partir de 7 ans, si j'en crois la signalétique de Netflix. La plateforme qui développe aussi des longs métrages d'animation de très grande qualité depuis plusieurs mois. Vous avez donc rendez-vous avec la famille Willoughby, qui est composée des parents et de leurs 4 enfants. Il y a Tim, l'aîné, Jane, sa sœur, et puis les frères jumeaux. Alors comme les parents ne savent pas trop comment les appeler, ils les ont appelés Barnaby et Barnaby, voilà, c'est plus facile. Ils ont un petit air de ressemblance avec les mignons de Moi, Moche et Méchant. Alors toute ressemblance avec la situation actuelle serait bien évidemment fortuite. Écoutez bien, chez les Willoughby, les enfants ont décidé de se débarrasser des parents.
Nos parents sont nuls. Imagine un peu comme notre famille pourrait être géniale sans eux.
Mais comment veux-tu qu'on se débarrasse de 2 adultes fourbes?
Facile.
Voilà pourquoi les enfants Willoughby ont décidé...
Nous concocterons une expédition dangereuse.
D'envoyer leurs parents faire un voyage mortel.
Sinistre.
Audacieux.
Et alors, derrière cet humour et le côté un peu burlesque des situations, il y a notamment une super nounou, un monsieur aux allures de Père Noël qui est le patron d'une fabrique de bonbons.
Nounou,
voilà, exactement.
Une super nounou, super nounou.
Oui,
Michel Jonas aujourd'hui.
Le narrateur qui est un chat, voilà, tout ça, ça donne quelque chose de tout à fait burlesque, mais le film aborde quand même la notion de famille et d'appartenance à une famille, mais aussi le thème de la maltraitance des enfants. Il n'y a pas d'émotion excessive pour autant, parce que le registre, c'est vraiment celui de la comédie. Le film est d'ailleurs adapté du roman de Lois Lowey et qui est intitulé, écoutez bien, Les Willoughby, abominablement écrit et ignominieusement illustré par l'auteur. Voilà. Sur la forme, le dessin est en 2D et en 3D avec des détails qui sont bluffants de réalisme. Je suis assez fan d'ailleurs de la qualité de l'animation de ce film. Alors je sais bien que je suis plus vraiment en âge de regarder des dessins animés, mais je me suis absolument régalée. La famille Willoughby, c'est sur Netflix.
Vous connaissez Eva, mon côté un peu radin,
on peut le dire.
On m'appelle la pince du Léman. Vous avez bien un programme gratuit dans
bien
votre
sûr,
besace.
Tous les jours. C'est sur France TV cette fois-ci et c'est un dessin animé qui est très malin, qui est baptisé Rocky Quaternaire. C'est le nom du personnage principal.
Alors là, j'ai compris le jeu de mots.
Voilà, on est encore dans une famille. On est dans le quotidien d'une autre famille qui s'appelle les Tika. Il y a un papa, une maman, 2 enfants, une fille et un garçon. Et l'arrivée d'un autre petit garçon, donc Rocky. C'est un enfant cro-magnon, une sorte d'Hibernatus. Il est resté congelé 35 000 ans avant d'être découvert et donc il a intégré cette famille. Et il va devoir apprendre à vivre au 21e siècle. Alors, exemple avec la correspondante anglaise qui débarque et qui affirme apprendre le solfège.
C'est quoi le solfège?
C'est l'étude des notes de musique.
Non, dans ma moutre, les deux! La musique, ça s'étudie pas, ça se joue! Je vais te montrer, Maggie, comment on fait. Allez, tous avec moi!
Alors, la confrontation entre Rocky et le reste de la famille, en fait, est qu'un prétexte pour aborder notamment la notion de différence, un thème envisagé toujours avec humour. Plusieurs épisodes sont disponibles gratuitement sur France.tv ou sur l'application gratuite Oku, ça s'écrit O-K-2-O, et c'est pour des enfants à partir de 6 ans, et ça s'appelle Rocky Quaternaire, voilà.
Et pour des parents qui sont radins comme moi.
Exactement.
Merci beaucoup, Eva, pour vos conseils du jour.
À suivre dans l'équipe est sauvage, un accident de piano. L'histoire d'Angela Hewitt à découvrir après Jean-Louis Aubert sur Europe 1. Du bonheur.
Si je pouvais construire du bonheur, je t'en ferais des tonnes, je t'en ferais des tours, j'en ferais des gratte-ciel. Si je pouvais construire construit pas en dur. de monter, d'aimer là-haut, au sommet, faire soi-même. Je pouvais construire du bonheur. Je t'en ferais des tas, je t'en ferais des kilos. Je t'en ferais des tonnes, je t'en ferais des tours. Je t'en ferais des gratte-ciel, je t'en ferais des montagnes. On serait honte de rien, on serait honte de rien. Mais le bonheur, ça se construit pas. C'est un peu comme l'air pur, il faut avoir du nez et le courage de monter et d'aimer là au sommet, de faire soi-même et le gratte-ciel et le paratonnerre, faire soi-même.
Jean-Louis Aubert, à l'instant, sur Europe 1, vous savez que sa tournée a été reportée à l'automne, qu'il s'est entouré des meilleurs artistes visuels pour mettre en place son projet, puisqu'il prévoit de jouer avec ses propres hologrammes, chacun évidemment jouant d'un instrument différent. Donc une vraie prouesse technologique à retrouver, bien à l'automne, tout simplement.
16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
On va remonter un petit peu dans le temps. Le 12 février dernier, en présence de Monsieur Poulpe, invité ce jour-là de Mathieu Noël, eh bien, notre chroniqueur compétiteur Jean-Philippe Ballas s'était intéressé à une pianiste, Angela Hewitt, dont le piano a été détruit par des déménageurs. L'accident s'est produit à Berlin à la fin du mois de janvier.
Il s'approche du micro avec la fierté et le port altier du torero andalou s'avançant dans la poussière de l'arène vers son destin. Signe particulier de Jean-Philippe Ballas, la classe. Comme on a pu le vérifier lundi lors de notre spécial sexe, lorsqu'Eva a tenté d'analyser un de ses rêves.
J'avais un énorme sexe, mais je comprenais pas que c'était moi en fait.
Ça m'arrive souvent. Hein.
Jean-Philippe serait-il le mystérieux Don Chibro qui fait tourner en bourrique Eva Rock? Nous le saurons peut-être dans un prochain épisode. En attendant, Jean-Philippe.
C'était pas un rêve, hein. Vous vous souvenez. Hein. Ouais, je le raconterai pas, mais c'était pas un rêve.
Oui, c'est vrai que c'était une expérience de réalité augmentée. Un casque VR.
Ouais, ça, très mal à l'aise.
Vous avez déjà fait ça, la réalité, parce qu'on sait que vous êtes dans Crac-Crac, vous parlez souvent de porno et tout ça. Vous avez fait avec le casque de réalité virtuelle.
Bien sûr. Ouais.
C'est pas mal.
C'est génial. Et j'ai poussé le vice à après le faire en vrai avec la même comédienne.
Et qu'est-ce qui était le mieux finalement?
Vous en aviez qu'une de comédienne dans le film que vous avez regardé?
Non, il y en avait plusieurs, mais après, humainement, c'est compliqué en termes de séduction.
Comment repasser à la chronique de Jean-Philippe Ballas? Jean-Philippe, vous nous racontez souvent de bien belles histoires. Aujourd'hui, une histoire émouvante.
Je vous présente Angela Hewitt. C'est une pianiste canadienne très renommée dans le petit monde des concertistes. Et Angela, elle vous présente son meilleur ami, son compagnon. C'est ainsi qu'elle l'appelle. Angela vous présente son piano. C'est toujours le même, jamais un autre. Et ça fait une vingtaine d'années que ça dure maintenant. Là, c'est elle. Et c'est lui que vous entendez. Lui, un piano à queue noir de la marque Fazioli. Alors, du nom de son créateur, Paolo Fazioli, c'est un Italien qui ne construit que des pièces uniques à la main. C'est un peu ambiance Ferrari dans son atelier. Il est au nord de Venise, dans le coin où on trouvait les arbres pour faire les Stradivarius. Ça vous pose un peu le personnage. L'exemplaire d'Angela a coûté près de 200 000 euros avec un pédalier spécial. Unique au monde, il y a 4 pédales à son piano.
Ah normalement il y en a 3
sur ce modèle.
Donc il va plus vite, c'est ça.
Il y a combien de vitesses? 18 vitesses.
Bref, autant dire que ça plaisante pas. Le drame, les amis, le drame est survenu il y a quelques semaines après un enregistrement à Berlin. Comme d'habitude, Angela Hewitt a laissé son piano partir avec des déménageurs qui l'ont laissé tomber.
Effet sonore, budget. Wow.
Il est dead, le piano. Il n'y a plus rien. Il est capoute.
Capoute.
Ouais, son fabricant, Paolo Fazioli, il est venu d'Italie tout spécialement pour inspecter. Il a dit, c'est mort, on ne peut pas les récupérer.
Je fais même avec cet accent-là. Avec
cet il est accent. Parti sur l'accent italien.
Est-ce que du coup, Angela, elle jouait du piano en debout, du coup? Je sais pas.
Les vannes s'enchaînent à toute vitesse.
Ne vous moquez pas d'Angela. Elle a mis une dizaine de jours à sortir de son silence. Et là, elle vient de publier un très long post sur les réseaux sociaux. Alors, elle précise qu'elle n'en veut pas aux déménageurs. Elle dit qu'elle leur faisait confiance depuis des années. Ils ont fait leur métier. Mais quand on lit sa lettre, c'est vraiment une lettre de deuil hein, qu'elle publie aujourd'hui. Alors, c'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent ne pas comprendre parce qu'ils disent, après tout, un piano, ça se remplace. Mais c'était vraiment son piano, elle, et les concertistes, c'est vraiment un toucher particulier. Je rappelle que chaque pièce construite par Fagioli, et chaque pièce est unique.
Mais Fagioli, là, il ne peut pas lui reconstruire le même piano exactement.
Alors si, il ne peut pas faire, on ne pourra jamais faire exactement le même.
Ah, c'est pas le même bois.
Exactement, chaque pièce est unique encore une fois. Alors, elle va en récupérer un dans quelques mois, mais il faut comprendre, on avait Renaud Capuçon il y a quelques temps dans cette émission, le grand violoniste.
Ah oui, il était amoureux de son violon, mais Renaud.
Il lui a même donné un nom, Vicomte de Panette, je ne sais pas si vous vous souvenez.
Ouais. Et alors, il ne se sépare jamais de lui, il est toujours là, il était dans le studio à côté de lui. Quand
et il le met toujours en hauteur, parce qu'il a la phobie des inondations, Renaud Capuçon. Donc il le met toujours au moins sur une chaise ou sur un lit. Donc bien comprendre que les concertistes ont quand même un rapport charnel, c'est vraiment le prolongement d'eux-mêmes, leur instrument. Donc on comprend que Angela Hewitt est très triste aujourd'hui. On espère qu'elle récupérera vite un vrai piano. Mais vous-même, Mathieu Noël,
moi-même, alors, oui.
Je vais révéler un secret aux auditeurs.
Son saxophone ?
Sa bonnette de micro.
Mais oui, c'est pour ça qu'elle sent très fort.
Elle sent très très fort, mais ouais. Elle est particulière. Mais j'enlève toujours la bonnette qui est dans son
Mathieu
micro pour
Noël
mettre la mienne.
Ne fait son émission que avec sa bonnette.
Sinon, on annule.
C'est génial.
Monsieur Poulpe, est-ce que vous êtes fétichiste, vous? Mais attention, hein, on n'est pas dans crac-crac, hein, on parle d'instrument, est-ce qu'il y a quelque chose qui...
Oui.
Un objet?
Oui, est-ce que je suis fétichiste? Enfin non, que sexuellement, je suis désolé, pardon Mathieu, il n'y a que...
Non, moi, fétichiste
j'ai,
sexuellement
ouais, moi j'ai le fétichisme du strabisme divergent.
Le fétichisme du strabisme divergent, ouais. Vous recherchez des femmes...
Mais quand une femme a un strabisme divergent, je deviens complètement dingue, ouais, ça me fait perdre tous mes moyens, pour de vrai, ouais.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage.
Jean-Philippe Ballas évoquait à l'instant le violoniste Renaud Capuçon, mais on va le retrouver dans un instant face à Eva Rock pour un quiz sur Europe 1.
I will.
c'est le nouveau single du duo de producteurs DJ parisien Taureau, à l'instant sur Europe 1.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage.
Mais l'équipe est sauvage en période de confinement, c'est aussi des petits moments où l'on feuillette l'album Souvenir, toujours en compagnie de Mathieu Noël. Et il y a quelques mois, le 3 septembre 2019, donc, Eva Rock affrontait le violoniste Renaud Capuçon sur un quiz.
Son cerveau est à la biologie ce qu'un moteur de Formule 1 est à l'automobile, une œuvre d'art. Hélas, comme les Grands Prix de F1, les quiz de Culture G qui opposaient jadis Eva à l'invité sont tous annulés, jusqu'à nouvel ordre. Pour Eva, le risque, c'est évidemment qu'elle se rouille, que sa mémoire commence à bugger. Alors je l'entraîne tous les jours. Eva, je suis l'auteur de Macbeth, Hamlet ou encore Roméo et Juliette.
Ouais, Molière.
Eva, je suis un humoriste français très en vogue. Beau gosse, trapu, j'ai fait du ski nautique à très haut niveau avant de choisir l'humour et j'étais votre invité aujourd'hui.
Peut-être Poupec.
Pour le mieux, c'est de se replonger dans l'époque de votre splendeur. Eva, on se réécoute une petite fournée du quiz. Face à vous, Renaud Capuçon, elle n'a pas fait la méthode Vivaldi. Et ça risque de lui porter préjudice dans ce quiz. Vous allez vous opposer à présent. On pourrait croire que c'est une promenade de santé, mais méfiance, la niçoise va tout donner pendant les 5 prochaines minutes. C'est un vrai faux. Sur le violon, vous répondez chacun votre tour.
Comment voulez-vous que...
Chaque bonne réponse
c'est
vaut
injuste.
Un point. Est-ce que vous partez avec un handicap? Oui.
Oui.
Renaud Capuçon, vous aimez le violon, vous aimez peut-être également la trompette. Si c'est le cas, ça tombe bien, car il existe un instrument appelé le violon-trompette. Vrai ou faux?
Vrai, je pense.
Oh oui, exactement. Inventé en 1899, très joué en Roumanie, et on l'appelle aussi le violon à papillon. L'instrument n'a pas de caisse de résonance, mais une membrane reliée à un pavillon de clairon. Écoutons un peu le violon trompette. Oui. C'était dommage.
Une idée de reconversion, ça.
Ouais. Et est-ce que vous pourriez me reposer la même question parce que j'avais la réponse.
Bah,
donc comme ça, je suis sûr de marquer.
Mais qu'est-ce que c'est que cet... esprit? Eva Rock, oui. Laurent Bernadac, toulousain, a réalisé une prouesse en 2015, le premier violon en coquille de noix. Vrai ou faux?
Mais il fait ce qu'il veut, monsieur.
Laurent Bernadac, ce n'est pas la question, Eva Rock.
D'accord. On va dire faux.
Oh bah oui, bonne réponse. Et bien, c'est un piège puisque Laurent Bernadac a construit quelque chose d'incroyable. Un violon en 3D, le 3D Varius, le premier violon en imprimante 3D fait à base de résine transparente. Écoutons.
Oui. Bah. Ça ressemble à une guitare électrique.
Oui, c'est loin, c'est du violon électrique, quoi. Attention, vous répondez ensemble, cette question va vous départager. Trois propositions. En 2014, un duo de violonistes lituaniens a réalisé une performance. Laquelle? 1. Ils ont joué du violon tout en faisant l'amour pendant un festival érotique. Vous n'avez jamais fait ça, Renaud.
Je ne m'exprimerai pas à ce sujet.
Ah, donc vous l'avez fait, c'est une réponse. 2. Ils ont joué avec un violon dont les cordes étaient remplacées par des cheveux humains qui étaient toujours sur le crâne d'une personne. Ou 3. Ils ont joué du violon sur une place sans demander d'argent à la fin de leur spectacle.
J'opterais pour la première, parce que la deuxième, ça paraît pas possible, puisque les cheveux ne supporteraient pas la pression et c'est trop fin. Et la troisième paraît un peu...
C'est un
peu
baroque.
Baroque, c'est un peu votre imagination, quoi. La,
oui, la mienne ou celle de ceux qui préparent le couscous,
voilà.
Parce que je ne sais pas tout dans cette émission.
Je dirais la première, c'est imaginable.
La première, Eva?
Ah ben moi j'aurais dit les cheveux, mais j'ai pas votre technicité, donc.
Bah oui, mais
je dis les cheveux.
Tant mieux, Eva, que vous n'ayez pas la technicité, puisque vous remportez ce quiz.
Mais non.
Incroyable. Alors on va vérifier. Effectivement, Renaud Capuçon a levé quand même une question importante. Est-ce que c'est possible? Une personne a fait pousser ses cheveux pendant 10 ans. Grâce à des tresses, de la colle et une coiffure étonnante qui remplaçait les cordes d'un violon, ils ont pu réaliser cette performance incroyable. Écoutons, donc là c'est ça.
Mais non,
c'est
pas.
Et oui, violon sur cheveux. Je sens que Renaud Capuçon
c'est
est content.
C'est un son un peu crépu, je trouve.
Oui,
Renaud, j'ai lu ça, vous n'êtes pas propriétaire de votre fabuleux violon.
Je le suis depuis un an et demi.
Oh,
maintenant.
Alors Mazel Tov, bravo Renaud. Mais longtemps vous l'avez loué ce...
En fait, il m'était prêté par une banque. Et j'ai eu la chance de pouvoir l'acquérir. Et maintenant, je suis endetté jusqu'à la fin de mes jours.
Mais ça veut dire qu'il y a un garde du corps pour votre violon?
Non, il est avec moi. Il est avec moi sans garde du corps, bien sûr. Non, ça serait impossible. Vous savez, j'ai toujours eu des violons de grande valeur, si ce n'est financière, en tout cas sentimentale. Et puis, c'est, quoi qu'il arrive, un instrument, c'est toujours une œuvre d'art. Et on en prend grand soin et on a des... on a des habitudes, voilà, on le garde toujours avec nous.
Il faut peut-être expliquer à nos auditeurs que le violon pour un violoniste, c'est peut-être encore plus important que le piano pour un pianiste. Enfin, le pianiste de concert, il va jouer sur un Steinway dans différentes salles du monde. Vous, il y a vraiment un lien intime avec votre violon.
C'est notre voix, vraiment. Et puis, il y a l'âme à l'intérieur du violon qui vraiment... Qui transmet nos émotions. Et on a un rapport, oui, un rapport très, très particulier avec notre instrument. Oui.
Vous lui donnez un nom, Jean-Philippe, à votre instrument ?
Alors, il a un nom, il s'appelle le Vicomte de Panette, parce qu'il a appartenu au Vicomte de Panette. Donc, parfois, ma femme me dit, dans le restaurant, est-ce que tu as le Vicomte ? Donc, les gens me regardent. Mais je pense lui donner un nom bientôt. Je pense que je le baptiserai, maintenant qu'il m'appartient. Même si c'est comme la façade d'une maison, il appartient à ceux qui l'écoutent. Et puis un jour, il sera joué par quelqu'un d'autre et il appartiendra à quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, de mon vivant, j'ai envie qu'il ait aussi un nom que je lui donnerai.
J'espère qu'on sera invité au baptême.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Allez, nous sommes pour quelques minutes encore en compagnie de Mathieu Noël et d'Eva Rock, sa grande complice. Alors à suivre, vos messages pour nous dire comment vous vivez le confinement. Et puis juste après, Ève Roger nous dévoilera les astuces des célibataires confinés pour draguer malgré tout.
C'est l'heure de prendre des nouvelles de votre confinement. Comment ça se passe en ce 42e jour? Vous nous envoyez vos messages directement sur l'adresse mail de ma fidèle complice Eva Rock, eva.rock@europe1.fr.
Je vous propose un petit programme du déconfinement de l'équipée sauvage. On commence par un réveil au son tranquille du jazz de Fred. Ensuite, une petite pétanque.
Une partie de pétanque.
Avec Eva.
Ah bah tiens.
Termine par un apéro de truffes de Mathieu. De vin avec Olivier et des grillades, bien sûr. Ensuite, bronzette sur la terrasse d'Ève ou sur les plages bretonnes chez Anne avec un livre de Nicolas. On termine enfin cette belle journée devant le concert Queen d'Anissé.
But committed no crime.
Yes. Axel, j'ai mes impôts à faire. Tu peux m'aider?
Mais disons qu'il connaît parfaitement bien l'émission, lui.
C'était le message de Guillaume qu'on remercie infiniment. Et puis, on a reçu un très très beau message d'une jeune fille qui s'appelle Emma. Écoutez bien.
Bonjour Mathieu, bonjour Eva. Alors moi, mon confinement, c'est me refaire toutes les saisons de ma série préférée Grey's Anatomy, faire des apéros FaceTime avec mes amis à défaut de pouvoir sortir et travailler mes abdos fessiers pour garder la pêche.
Très important.
Sinon, je travaille en EHPAD. J'ai été réquisitionnée étant étudiante infirmière. Là-bas, c'est compliqué parce qu'il y a un grand manque de personnel et de matériel. On n'a pas assez de lunettes de protection, donc on doit toujours courir après les collègues pour se les prêter. On a des résidents aussi testés positifs au Covid qui ne peuvent pas être hospitalisés parce que les hôpitaux manquent de place. On doit donc assurer leurs soins. Quand je rentre dans leur chambre, je me protège au maximum. Je ne me pose pas de questions, j'y vais. D'ailleurs, je dois y aller, les résidents m'attendent. À bientôt.
Voilà, on l'embrasse très fort, Emma.
Et
bravo, bravo pour tout ce qu'elle fait auprès de toutes ces personnes âgées qui sont dans les EHPAD et qu'on embrasse aussi s'ils nous écoutent. Voilà.
Merci à tous. Oui, juste un petit mot. Henri, en Espagne, ça se passe comment? Ça chante encore au balcon? Ça, c'est juste du picking hein, pour donner une idée de l'ambiance, mais l'autre jour ça chantait au balcon. Est-ce que c'est toujours la même ambiance en Espagne?
Ah oui, ça continue de chanter au balcon, de danser à 20h au balcon, les voisins qui se retrouvent. Voilà, c'est toujours cet esprit assez festif ici, malgré les nouvelles qui ne sont pas toujours bonnes.
Confinado, pero motivado, comme on dit à Barcelone. L'équipe sauvage continue.
16h, 18h, l'équipe sauvage sur Europe 1.
Comprendre le monde sans jamais oublier d'en rire, même en ce moment, vous écoutez l'équipe sauvage confinée. Heure d'une joyeuse empoignade entre les meilleurs journalistes d'Europe 1 qui se tirent la bourre au service de votre culture G. Et notre prochaine concurrente, Ève Roger, nous propose un sujet de la plus haute importance. Comment, lorsqu'on est célibataire, continuer à draguer durant le confinement? Effectivement, c'est délicat. Poussé par des amis, on a tous un jour tenté la drague au téléphone avec plus ou moins de réussite.
Allô, je suis un copain de Nov. Il m'a dit que t'aurais rien quand un petit 5 à 7 avec un mec super bien monté. Ça tombe bien, je suis un gros chaud de la bite. Tu sais quoi, je vais te casser tes petites pattes arrière et puis je vais te faire bouffer ton polochon. T'entends?
Serge? C'est toi mon fils?
Maman?
Eh oui, attention à la drague virtuelle. Heureusement, il existe d'autres techniques, n'est-ce pas, Ève Roger?
Oui, absolument. Mais avant de vous donner les astuces, je vais vous faire un petit bilan parce qu'il y a 16 millions de célibataires en France.
Ça, c'est une bonne nouvelle déjà. Voilà.
Et très une partie des plus jeunes, c'est-à-dire les étudiants, sont rentrés chez papa, maman, parce qu'ils n'ont pas envie de se confiner tout seuls. Donc, ceux qui sont vraiment tout seuls, c'est les jeunes adultes en télétravail chez eux, ou aussi les divorcés, hein, avec ou sans enfants. Alors, comment font-ils? Tous ceux à qui j'ai parlé, ils me racontent que le plus dur, ce n'est pas tellement l'absence de sexe. Ça, ils savent comment y remédier avec les sextoys, les sextos, le porno. Mais c'est vraiment le sentiment de se sentir encore plus seul qu'avant, parce que c'est encore plus dur de supporter le célibat. Il n'y a personne à côté pour vous divertir, vous savez, les collègues, les sorties. Donc ça vous remet face à vous-même. Et tous me disent, c'est pas forcément de l'amour qu'ils voudraient, mais une présence, quelqu'un avec qui se lever sur un canapé, regarder un film ou une série, se toucher, juste un petit contact physique. Vous savez, c'est le fameux plan dodo dont je vous ai déjà parlé.
Et on a déjà démenti l'existence de ce plan dodo qui débouche toujours sur un plan sexo. Ensuite, il n'y a qu'avec vous, Eve, que...
En tout cas, aujourd'hui, ils réclament un plan dodo. Peut-être qu'il pourrait se terminer autrement. Donc vous allez entendre Ariel, elle a 24 ans. Elle bosse en télétravail, confinée dans son petit appartement parisien. Et le célibat la mine déjà en temps normal. Alors là, c'est pire.
Ça me pèse beaucoup, j'ai l'impression que je perds du temps et que c'est maintenant que je suis jeune, belle et que je dois être avec quelqu'un. Et là, je me dis que ça aurait été encore mieux d'être en couple. J'aurais pu amortir ce confinement, j'aurais eu une activité sexuelle hyper épanouie. Ouais, c'est surtout au niveau de l'activité sexuelle, quoi. Déjà que j'en ai pas beaucoup d'habitude, c'est maintenant qu'il faut faire et que je fais rien.
Voilà, écoutez, donnez-lui mon 06 tout simplement, on va peut-être trouver une solution. Oui. Que pourrait faire Ariel pour trouver quelqu'un plus sérieusement pendant le confinement? Vous nous avez promis des bons plans, Eve.
Oui, alors on va commencer, il y a d'abord les œillades au supermarché. Paf, le type devant vous, il vous tape dans l'œil. Une amie m'a raconté avoir essayé d'entamer une conversation sur le contenu de son caddie. Bon, ça n'a pas abouti cette fois-ci.
Tu as pris du fromage de chèvre, mon coquinou.
C'est d'une bonne entrée en matière, hein, Mathieu. Oui. Ensuite, il y a ceux qui profitent de la balade d'une heure. Vous savez, on a le droit de se balader une heure par jour pour faire un peu de repérage. Là, il faut chercher le eye contact, ce qu'on m'a expliqué une autre de mes amies. Ou alors le pot dans la cour de l'immeuble, vous savez, organisé entre voisins, même si ce n'est pas très autorisé, mais ça existe aussi.
Mais ça, mes voisins connaissent bien, oui.
Donc là, elle m'a raconté qu'elle avait vu un type qui était pas mal. Alors je lui ai dit, pourquoi tu n'as pas enchaîné? Elle m'a dit, j'attends le prochain pot. Donc le plus simple, ça reste quand même les sites de rencontres. Et c'est vraiment très intéressant ce qui se passe sur ce marché.
Bien.
Là, je parle à vous.
Prenez des notes, Eva.
Oui, j'écoute. Oui.
Alors, dans les tout premiers jours, on a constaté une baisse d'activité sur les sites ou les applis. Sur le mode, ça vaut pas le coup de se connecter, puisqu'on n'a pas le droit de se rencontrer.
On ne peut pas concrétiser.
Mais certains célibataires ont commencé à utiliser les applis différemment, autrement. Comme ce n'est plus la course pour le coup d'un soir, il ne s'agit pas de conclure en quelques minutes, et bien ils ont commencé à discuter plus longtemps. Et par exemple, sur le site Appen, en Europe, on a remarqué que les temps de conversation ont augmenté de 10 à 30% par rapport à d'habitude.
Donc c'est le romantisme gagne les applis de rencontre, finalement.
Voilà, et c'est moins superficiel. Tous y racontent que l'idée, c'est pas de séduire à tout prix, donc ils échangent de façon presque plus sincère, presque de façon plus authentique, sur en particulier, évidemment, cette drôle d'expérience qu'est le confinement. Et les applis géolocalisées, vous savez, Tinder ou même Appen ou Grindr, eh ben, ils ont élargi le rayon de la drague, c'est-à-dire que jusqu'à présent, c'était 250 mètres autour de vous. Et ben maintenant, c'est passé à 90 km, parce que justement, on a plus le temps, et puis c'est pas le moment d'aller tout de suite aller voir quelqu'un. Et puis une experte en site de rencontre a même noté l'arrivée en France d'une nouvelle tendance venue des États-Unis. Moi, je ne connaissais pas, ça s'appelle le pré-rendez-vous virtuel. Alors là-bas, on fait souvent le premier date en vidéo, en FaceTime par exemple, parce que pour éviter de perdre de l'argent ou du temps, je ne sais pas si ça vous parle, avec des gens complètement fumeux. Vous savez, vous êtes obligé de payer un verre ou même le restaurant avec un type où vous vous dites, mais non, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais là? Donc il y a un pré-rendez-vous virtuel où là, vous pouvez commencer à faire une sorte de casting. Et ben maintenant, les Français, aujourd'hui, expérimentent ce premier rendez-vous en vidéo grâce au confinement, avant une éventuelle rencontre après le confinement.
Je comprends la logique consumériste, mais je m'oppose fermement un premier rendez-vous doit rester, même si on est passé par une appli de rencontre, un premier rendez-vous parce qu'il peut y avoir un truc magique. Et l'avoir en FaceTime, je trouve que c'est d'une tristesse sans nom.
Ça quand même permet de faire le tri. Il y a 54% des Français qui sont d'accord pour ce premier rendez-vous.
Oui, mais c'est pas grave de payer. On peut payer une bière ou un coca. Ça ne va pas nous ruiner quand même. Alors, écoutez-moi bien, parce que j'ai la réponse à la question que vous voulez que je vous pose. Vous me dites, mais personne ne triche et ne se rencontre en vrai. Alors moi, je sais qu'hélas, il y a des gens qui trichent.
Bien sûr,
j'ai des amis.
C'est ça que je vais vous raconter.
Racontez-nous.
Alors, un ami m'a raconté son tour de passe-passe. Il dit c'est assez facile. L'appli de rencontre trouve un ou une partenaire dans un rayon de moins d'un kilomètre. Tu prends ton petit sac de course, genre je vais faire mes courses, ton attestation de déplacement, et hop, le tour est joué.
Alors, course de première nécessité.
Voilà, c'est les amis. Les denrées indispensables. indispensable. Impossible donc de savoir combien le font, hein, c'est vrai, j'arrive pas à trouver des statistiques là-dessus, mais vous allez entendre Alexis, il a 25 ans, il est consultant et confiné dans son 24 mètres carrés à Paris, et ben au bout de 4 semaines, il a craqué, il n'en pouvait plus, écoutez.
C'est vrai que j'ai vu quelqu'un que j'ai rencontré via un site de rencontre, il habitait pas très loin de chez moi, moins d'un kilomètre. Moi je suis arrivé, je me suis lavé les mains, et puis on a évité vraiment des contacts au niveau de la bouche, quoi, forcément. On s'interdisait pas forcément d'avoir des gestes l'un vers l'autre, mais on sentait qu'on n'était pas forcément à l'aise et que c'était plus vraiment naturel. On commence déjà à avoir des automatismes, déjà de plus se faire la bise, de plus vraiment se toucher. Enfin, c'est assez particulier, en fait.
Et c'est là que je trouve que ça devient vraiment intéressant. Ça veut dire que pour lui, les histoires d'un soir ne sont plus jamais comme avant. Et c'est vrai qu'on commence à sentir cette différence, la vie avant et la vie après. Mais vous allez entendre, pour terminer, notre première témoin, Ariel. Elle n'entend pas du tout de cette oreille-là. Elle compte bien se rattraper au moment du déconfinement. Écoutez.
Je pense qu'à la sortie du confinement, ça va être très très facile de draguer, parce que tous les gens célibataires, ils ne seront pas très difficiles, quoi. Et moi, la première, en fait, je n'ai jamais été très difficile en ce qui concerne les coups d'un soir. Et je pense que ouais, j'en aurai pas mal. J'espère en avoir à la sortie.
Qu'est-ce que vous en pensez, Eva?
Écoutez, rendez-vous est pris.
Moi, je ne pense rien. Allons-y.
Comment ça, vous ne pensez rien? Non, Eva, il va falloir s'y mettre. Non, mais Eva, vous avez une très mauvaise image des applis de rencontres qui sont vraiment démocratisées aujourd'hui. Vous pouvez y faire des belles rencontres.
Oui, chef.
Et surtout, vous pouvez y nouer des rapports romantiques. Justement, c'est le moment. Vous êtes en confinement. Vous n'avez rien d'autre à faire, Eva, à part préparer cette émission. Ça ne va pas
sûr.
Vous prendre non plus trop de temps.
Non, bien
et donc,
sûr.
Vous pouvez envoyer des petits messages et commencer à voir si la personne est drôle, a de l'esprit, etc. Et vous pourrez faire des belles rencontres.
Ah, j'adore votre
conseil.
Humour souvent. Allez-y,
c'est mon conseil.
Là.
Merci, Eve Roger. Et n'oublions pas, hein, si on ne trouve pas chaussure à son pied en confinement, il nous reste toujours les sextoys. Vous-même, Eve, je me suis laissé dire que...
Il n'est que gonflable, hein. Et c'est oui. Un petit gonflable, voilà.
Oui, gonflable ou pas, c'est hyper pratique.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage.
Si ça s'achève, c'est 2 heures d'infos et de découvertes en compagnie de Mathieu Noël et sa bande, et que vous retrouverez dès demain 16h sur Europe 1. Bonne fin de journée avec nous, à suivre votre grand journal d'histoire avec Wendy Bouchard.